Bonjour et bienvenue donc à cette table ronde consacrée au croisement entre le réalisme et la magie. Et donc on a la chance d'accueillir trois auteurs. D'abord Alice Scarling, qui est une nouvelle voix de la bitlit française, avec un premier tome des aventures de son héroïne Sacha, qui est paru chez Milady, donc Lacrimosa Requiem pour Sacha. Fabrice Colomb, à qui s'applique bien la traditionnelle expression qu'on ne présente plus, sa formidable bibliographie s'enrichissant de plusieurs opus chaque année, hein, donc il faut suivre en fantasy, en fantastique, en science-fiction, et puis également en polar, en roman noir, en littérature générale, sans doute bientôt, pour adultes, pour la jeunesse, pour tout public assez largement. Donc dernièrement, devant lui, on a la réédition d'Arcadia, de l'intégrale d'Arcadia chez Bragelonne, et puis donc c'est son dernier titre sur lequel on portera plus particulièrement la discussion, Passeur de mort, chez Flammarion. Il y avait aussi eu chez Flammarion, c'est Personne ne te sauvera. Et puis un diptyque qui s'intitule La dernière guerre, chez Michel Lafond. Et enfin, donc, Patrick Maxter, auteur et illustrateur, bien connu pour la série des Hauts Conteurs, qu'il avait co-écrit avec Oliver Perru, et qui a depuis entamé une nouvelle série jeunesse chez Scrino, Les Héritiers de l'Aube. Le deuxième tome vient de paraître, là, c'est le premier. Et il est également l'auteur chez Panini d'un ovrage qui s'intitule Comtesse Báthory, hein, donc consacré à ce fameux personnage de la Comtesse Sanglante, qui n'est, donc on vient de le constater, pas en rayon en librairie, sur la librairie aujourd'hui, mais qui le sera dès demain, donc on s'en réjouit. Donc le mélange de magie et de réalisme, donc l'intrusion de la magie dans un quotidien, tout ce qui est plus normal, ou au contraire le souci du quotidien qui réapparaît même en plein cœur des événements les plus surnaturels, hein, ça caractérise bien vos ouvrages, hein, qu'il s'agisse de bitlit, de fantastique ou de fantasy historique. Alors d'abord Alice Scarling, c'est la grande tradition de la bitlit, la Buffy un peu, disons. On découvre vraiment Sacha en boîte de nuit avec son colocataire, en plein concert, on répète, et puis quand des vampires viennent taguer chez elle, la première chose à laquelle elle pense, c'est un « Oh, ma caution !» Celle que j'ai bien aimée.
Oui, parce que la Buffy, c'est défini par ça, en fait. La Buffy, pour moi, c'est vraiment... un genre qui est porté par ses héroïnes et dans lequel l'important c'est de pouvoir s'identifier à l'héroïne, de pouvoir se reconnaître et donc d'avoir un lien avec elle, donc quelle est des considérations de la vie quotidienne. C'est pour ça que Sacha a un coloc, qu'elle a des factures à payer et que le vampire n'est pas essentiel dans sa vie, en fait, parce que ce n'est pas ça qui la caractérise au fond.
Et elle essaye justement de réussir à mener une vie normale.
Elle essaye de s'en détacher, absolument. Mais le problème, c'est que c'est pas très intéressant de raconter l'histoire où elle ne fait que payer ses factures. Donc, bien évidemment, les vampires reviennent l'attaquer régulièrement. Voilà, c'est important d'avoir cette différence, en fait, et ce clash entre deux univers, parce que c'est ça qui va révéler le caractère de l'héroïne d'une manière importante.
Et puis on la saisit au moment où sa vie bascule, justement, où elle ne réussit plus à faire coïncider comme elle le souhaitait les deux faces de son identité.
Absolument, oui, parce que au moment où bascule et où elle se rend compte que son pouvoir n'est pas vraiment, parce qu'elle vit avec son pouvoir, c'est quelque chose qui l'empêche d'avoir une vie normale, mais c'est aussi quelque chose qui lui permet de mener sa vie comme elle l'entend, comme elle en a envie. C'est son pouvoir qui l'a tiré de la rue, du squat dans lequel elle vivait, donc au moment
Fabrice Colin, la jeune Angel dans Passeur de mort, découvre littéralement l'arrière-plan du réel. Elle se met à être capable de voir, grâce aux lunettes rouges qu'on aperçoit en couverture. Et donc voilà, c'est encore un passage de l'autre côté des choses.
Ouais, moi j'aime bien ce système de l'intrusion dans un quotidien réaliste, d'un basculement, d'un décalage. De toute façon, je crois que c'est un petit peu l'essence. Moi, je ne suis pas très calé, je suis de moins en moins en fait dans théorie pour différencier le réalisme magique de l'art, du fantastique, de la fantaisie urbaine. Enfin, ça se mélange pas mal. Là, vous allez me contredire parce que je pense que vous voulez baisser les sciences. Parfois, on est vraiment à la frontière entre plusieurs choses. Là, on est effectivement dans un environnement réaliste. Auquel les lecteurs peuvent tout à fait se raccrocher, parce que c'est New York et c'est de nos jours, enfin c'est là que ça commence. Et puis il y a l'intrusion du surnaturel avec ces espèces de lunettes magiques, effectivement, qui permettent de voir le moment où les gens. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, précisément, par qui, par quoi vous êtes pris en charge. On est tout à fait dans le sujet, quoi.
Et vous, Patrick, alors, si vous voulez parler de Comtesse Bathory, vous êtes tout à fait bienvenu pour nous en dire un peu plus sur le réalisme de cet ouvrage. Pour ce qui est des héritiers de l'aube, moi, ce qui m'intéressait pour le sujet, c'est l'arrière-plan historique, la manière dont il est travaillé et dont, effectivement, des personnages ont. C'est trois jeunes héros venant d'époques différentes qui se retrouvent transportés donc, dans ce tome-là, dans la guerre civile en France entre les Armagnacs et les Bourguignons, donc au XIVe siècle. C'est une époque qui est mal connue.
Surtout cet épisode-là, surtout l'épisode de la guerre civile armagnac bourguignon.
Tout à fait.
En général, la guerre de Cent Ans, bon, en gros, tout le monde a des repères de référence précise, mais cet épisode-là est plus.
Donc il y a une volonté de justement d'avoir cet ancrage historique pour votre histoire surnaturelle. Il y a une dimension pédagogique même.
Plus égoïste que ça, en fait, c'est ça qui m'a fait triper. Tout simplement, j'adore.
Vous aimez l'histoire.
C'est ça. Alors après, tant mieux s'il y a une dimension pédagogique qui vient se greffer.
Oui, parce qu'on apprend des choses sur une
image. Bon, ça vient d'ailleurs un peu sur le capot après, mais quand son document, c'est pas.
Donc, documentation, justement, vous avez.
Oui, assez solide, surtout pour une période comme celle-ci, qui est assez embrouillée, avec pas mal d'acteurs, pas mal d'applications géopolitiques. Donc, ouais, il faut quand même se documenter de manière sérieuse. Pour éviter d'avoir un jour en dédicace quelqu'un qui vient de vous dire monsieur, vous êtes trompé.
C'est tellement un peu une. Et comment vous vous arrangez justement pour faire fonctionner l'intrigue surnaturelle et donc les moments notamment où des personnages historiques se retrouvent possédés avec votre volonté d'avoir une trame documentaire à peu près crédible?
En général, je choisis les personnages historiques en fonction de l'intrigue que je veux développer. Là, par exemple, dans Thomas des héritiers, il s'agit du. Le souverain français, c'est Charles VI, qui était complètement frappé. En fait, il était fou, il y est. Et c'est pour ça que je l'amène à être confronté aux démons qui traquent les héritiers de mes héros.
Ou alors des personnages secondaires, comme ce personnage du chef
c'est les écorcheurs.
Les écorcheurs.
Germain, c'est pas ça un petit peu. Qui est le chef dans le roman, c'est le chef d'une grande compagnie, donc c'est l'ordre de brigands qui était au service des princes en temps de guerre, qui donc égorgeait, tuait, pillait, compagnie, puis en temps de paix, il faisait pareil parce qu'il s'en vivait. Il faisait exactement la même chose, mais en temps de paix, comme il n'était pas payé, il rançonnait, il pillait les villages. Et effectivement, alors l'un des deux chefs, disons la cerise sur le gâteau pour moi, c'est de procéder à un tel mélange que dans les deux factions, il y a un chef de grande compagnie qui a existé. C'est alors, pour le coup, je m'excuse auprès de Richard, c'est un peu loin. Hein.
Oui, tout à fait.
Et l'autre, en réalité, c'est une invention de phase de plus, c'est vraiment me fondre les deux.
Et quelles autres périodes vous avez choisies pour les tomes à venir?
Alors, pour le tome 2, du coup, maintenant, il n'y a plus de crainte de spoiler, puisqu'il est sorti, il se déroule en 1906 à San Francisco. Donc, c'est une période radicalement différente.
C'est la prohibition, c'est ça?
C'est avant. Voilà, c'est le document. Ouais.
D'accord.
Au moment du grand séisme, c'est ça.
D'accord.
À la fin de 1906.
Très intéressant. Encore une période, voilà, pour moi, complètement mal connue. Dans tous les cas, c'est des personnages qui ont des super pouvoirs, en réalité, hein, exactement comme des personnages Marvel. Dans les trois romans, mais qui réagissent à la découverte de ces potentialités d'une manière volontairement réaliste, c'est-à-dire par le trouble, par le déni, par la tentative de s'en dépatouiller autrement. Donc c'est important pour vous là cette idée de coexistence compliquée de l'être magique, du pouvoir magique et des besoins du réel. C'est une question que j'ai déjà un peu posée à Alice, mais que je pose aux deux autres, parce qu'on a ce même principe de la personnalité qui acquiert un pouvoir et qui en est bouleversée.
En plus, on ne sait même pas si on est... Enfin, c'est une question très intéressante et profonde et qui touche vraiment toute cette littérature-là. On ne sait jamais dans quelle mesure on est réaliste à ce niveau-là. De mon point de vue, quand un enfant naît et grandit, il est pendant une certaine période de sa vie dont il ne sait pas encore ce qui, en gros, comment marche le monde, ce qui est possible hein, ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un enfant de 4 ans et l'emmener dans les Vosges derrière et lui dire fais pas trop de bruit parce qu'il y a des dragons et il va vous croire. C'est assez marrant d'ailleurs à faire. J'ai testé. Bon, après, donc en fait, vous êtes sidéré par le fait que, bah oui, justement, il n'est pas formé à ce moment-là. Donc ensuite arrive un moment, je sais pas quel âge est-ce qu'on peut dater, mais où en gros vous savez ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ça, quel est le monde réel, c'est quoi la réalité, qu'est-ce qui appartient à ce monde-là, et quand est-ce qu'on vous raconte des histoires, quoi. À partir de là on se remet dans une position où un personnage est dans un univers réaliste, qu'on prend généralement grand soin de présenter en détail au lecteur pour qu'il soit bien, qu'il comprenne bien où est-ce qu'il est, c'est un peu la méthode Stephen King, c'est-à-dire que justement presque on insiste sur le réel pour qu'il y ait presque une torpeur comme ça qui s'installe, et on fait survenir quelque chose de surnaturel. Comment on réagit à ça? Moi je peux pas m'empêcher de penser que si, parfois je me dis mais en fait de façon réaliste, peut-être que les personnages à qui il arrive des trucs aussi extraordinaires que dans nos bouquins simplement resteraient prostrés en état catatonique ou iraient directement aux urgences pour dire je crois que j'ai une tumeur au cerveau et voilà. Donc mais
pour en rien et en épisode normal again
et en même temps on sait aussi que on est capable de s'adapter à des situations, c'est-à-dire que si demain on le voit dans une série comme Walking Dead, qui je pensais assez réaliste. À partir du moment où on vous dit finalement il y a des zombies maintenant, c'est comme ça, passer le moment de sidération, il y a l'instinct de survie qui reprend le dessus, et donc vous intégrez cette nouvelle donnée à un espace que vous pensiez complètement clos et fermé, vous dites bon, maintenant il y a des zombies, donc il faut faire avec, quoi, à partir du moment où vous n'êtes pas cinglé dans l'instant. Donc moi, j'ai l'impression que les personnages, en l'occurrence, j'ai pas lu les livres de mes camarades, mais font avec, quoi. C'est-à-dire, ils sont toujours. Il y a forcément un moment de surprise à ce niveau-là. Oui, on essaie d'être un temps soit peu réaliste. Si vous voyez débarquer un dragon du jour au lendemain, vous allez pas dire, tout à fait normal. Voilà, mais vous actez, la présence du dragon est actée. Donc, c'est une nouvelle réalité presque augmentée dans laquelle évoluent les personnages par la suite.
Patrick Maxper, c'est ce qui est frappant moi ce qui m'a frappé à la lecture, c'est à quel point notamment vos personnages sont choqués par leur découverte de la violence. Parce que ils, même s'ils viennent d'époque, pour les deux d'entre eux, au moins d'époque qui elle-même, l'État, ils sont pour la première fois amenés, même la jeune Laura, à tuer quelqu'un. Et c'est un acte qui a des répercussions longues sur leur personnalité, alors que très souvent, en fantasy, c'est quelque chose qui est donné comme quelque chose qui n'a pas précisément d'impact sur les personnages. De ce point de vue-là, j'ai trouvé qu'il y avait une recherche de réalisme psychologique chez ces trois jeunes gens.
Oui, oui, tout à fait. Mais alors là, pour le coup, c'est ici qu'intervient, en ce qui me concerne, plutôt le souci pédagogique. Vraiment, c'est-à-dire que j'estime qu'en tant qu'auteur, on porte aussi une bonne responsabilité sur la perception du monde pour les plus jeunes parmi ceux qui nous lisent. Et voilà, bon, il suffit d'allumer la télé pour voir que la violence est complètement banalisée, n'importe quelle série US ou autre, avec beaucoup de fois, aussi normalement de s'y inspirer ou manger un petit bonbon. Et c'est quelque chose qui me dérange, moi, depuis toujours. Alors après, quand on met en scène un héros, un personnage qui est un barbare, effectivement, dans la fantasy classique, en gouverne ou autre, voilà, c'est normal, c'est une époque, ce sont une époque et un personnage typé, c'est normal. Mais dans mon cas, non, effectivement, les héritiers, comme dans les hauts conquérants d'ailleurs, c'était la même chose, où en plein accord avec Olivier, nous avions décidé que le conteur n'était pas des héros tuants. Bon, si on peut dire. Quand ils tuent, c'est vraiment qu'ils, ou c'est accidentellement, ou c'est vraiment qu'ils n'ont pas le choix. Mais en tout cas, ils le vivent.
Et Comtesse Báthory, donc racontez-moi. Ça, c'est du roman adulte.
Oui, là, c'est un roman raisonnement adulte qui est à la fois beaucoup plus sombre et beaucoup plus violent que les héritiers. Elle est dans une démarche un peu similaire au début parce que je voulais m'attacher à la progression psychologique du personnage, mais pour des raisons différentes, pour des raisons religieuses. Elle, en tant que croyante, elle se dit que si elle tue, bah, évidemment, Sodome sera condamné, le paradis lui sera refusé. C'est au début. Alors après, petit à petit, elle se retrouve embarquée dans une spirale à la fois névrotique, horrifique, surnaturelle et compagnie. Et donc, petit à petit, son souci de sa crainte de la damnation va être balayée par ses agissements. Ces nouvelles petites.
La crainte de la damnation, on est pas loin de la Crimosa. Alors, Sacha, elle connaît déjà son pouvoir au départ, mais elle connaît pas sa nature, elle connaît pas son identité, et elle connaît mal le reste du monde paranormal qui l'entoure, et le récit va la montrer sur ce chemin-là.
Oui, parce que en fait, Sacha est le point d'entrée dans le livre et le point d'entrée dans l'univers. Quand dans un univers de fantasy pur et dur, vous ne pouvez pas avoir des personnages qui s'asseyent autour d'une table et qui disent bon, alors maintenant on va tailler le bout de gras en s'expliquant les uns les autres la situation géopolitique du pays. Non, il vous faut un point d'entrée. Et dans un roman de Bigfoot où le surnaturel n'est pas aussi présent, enfin est moins présent que dans de la fantasy pure et dure, il y a quand même besoin d'un point d'entrée, il y a quand même besoin d'un personnage qui ignore le fonctionnement, les codes, et qui doit les découvrir en même temps que le lecteur, parce que sinon on jette son lecteur dans une bassine, on lui jette de l'eau dessus et puis on lui demande ça va, tu arrives à respirer? Non, il n'arrive pas à respirer. Donc il a besoin d'un point d'entrée. Et pour moi, le point d'entrée se fait par l'héroïne parce que ça permet de créer un lien émotionnel fort avec les lecteurs. Et comme c'est moi, j'écris des livres pour faire rire les gens, pour les faire pleurer, pour leur donner envie de jeter le livre contre le mur. Donc j'ai besoin que...
Pour les exciter un peu aussi, les plus jeunes d'entre nous étant partis.
C'est de dire au lecteur, voilà, tu ouvres la première page, il y a une héroïne qui t'attend, elle te prend
c'est écrire un jeu de rôle ou écrire un roman, la construction des univers, etc. Effectivement, c'est toujours cette question-là qui revient. Comment réussir à faire rentrer dans son univers. C'est autre point commun entre ces textes, c'est des romans où la mort est la grande affaire. La quête de l'immortalité et où la lutte contre la tentation de l'immortalité est en général plutôt dans ce sens-là. Alors, pour essayer de nous raccrocher à réalisme et magie, est-ce que voilà, la mort vous apparaît comme cette dernière frontière ou le mystère, le vrai, l'inquiétant, l'insoutenable, va bien finir par apparaître dans la réalité de tous et de chacun? Voilà, est-ce que c'est ce mystère-là, ce mystère de la mort que vous avez auquel vous avez envie de vous attaquer maintenant? J'ai l'impression que chez Fabrice Collin, c'est assez net hein, dans les dernières heures.
Oui, là, j'aurais du mal à dire le contraire.
La quête de la beauté de la jeunesse éternelle, comme on l'a dit souvent, est juste absolument tétanisée, terrorisée, horrifiée, à l'idée de mourir un jour. Et c'est ça qui va la précipiter dans une course. Donc, c'est bien, j'ai perdu le film. Mais voilà, il y a une petite séquence d'humiliation. En plus, c'est une transition. Je vais me permettre de faire une transition.
Pas particulièrement, bon, mais je vais la faire quand même. Donc, Alice, Sacha, voilà, encore, va se confronter à un certain nombre de personnages qui remettent en question ces frontières entre la mortalité normale et en particulier le jeune homme qu'elle rencontre, puisque l'amour est présent. L'amour et la mort. Bon, là encore, c'est une grande question de la biclite qui est vraiment au cœur du genre. Le rapport à l'immortalité.
Oui, le rapport à l'immortalité, c'est inévitable parce que je pense que la biclite a un côté très métaphore de vie en fait. Ce que tu disais tout à l'heure sur Buffy et sur en fait, Buffy, quand elle combat des vampires ou que Willow, par exemple, devient accro à la magie, enfin, je veux dire, la ficelle est tellement grosse que c'est une corde, quoi. Et c'est un élément essentiel de la biclite, finalement. C'est une manière de faire passer des thèmes. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie d'écrire sur les problèmes d'addiction à la drogue, parce que je trouve ça trop terre à terre, trop réel, et que ça ne m'excite pas plus que ça, et que ça ne m'amuse pas plus que ça. En revanche, dans mon texte, je peux mettre une approche métaphorique à ça. Sacha a une addiction à son pouvoir, elle ne peut pas consommer de drogue, elle ne peut pas boire d'alcool, mais elle a une addiction à son pouvoir. Et du coup, la mort et l'immortalité sont aussi une métaphore de ce qu'on doit affronter dans la vie au quotidien. Et donc j'ai perdu le film aussi.
C'est pas un pouvoir confusionnant. Qui est super comme pouvoir. Je vous le recommande.
Ça fonctionne super bien.
Ça va être mon pouvoir.
Ça va arriver juste en face de la vache.
D'accord, donc c'est le rôle métaphorique.
Voilà, parce que tout est une question de vie ou de mort. Quand on est adolescent, c'était ça ma transition. Okay. Quand on est adolescent, tout est une question de vie ou de mort. On est tous rentrés de l'école un soir quand on avait 14 ans en disant ah là là, je vais me suicider. C'est rigolo de pouvoir en fait jouer avec des personnages qui sont. qui sont un peu plus adultes, mais qui en sont toujours là, finalement, dans leur vie, et pour qui tout est une question de vie ou de mort, et qui, tous les soirs, en rentrant chez eux, peuvent se dire « je l'ai échappé belle », alors que finalement, nous, bon, voilà, on traverse la rue, on se dit pas à chaque fois « j'ai survécu à ça ». Mais au fond, c'est ça, quand on affronte une journée qui n'est pas facile, qu'on perd le fil en pleine table ronde, on se dit « eh ben, j'ai survécu à ça ». Voilà. Transition.
Voilà, ça concrétise. Ça concrétise une métaphore. Et moi, je ne sais pas pourquoi je me raconte, mais c'est toujours sur ce même problème. Alors, dernière question, j'élargis encore, hein, c'est vraiment très vaste. Passeur de mort, c'est également l'histoire d'un... C'est aussi l'histoire de la façon dont Anne-Jung finit par écrire un livre où elle choisit un certain nombre de détails réalistes pour faire plus crédible. Hein, donc il y a une espèce de retournement, enfin, pas de retournement à la fin, mais de réflexion sur ce qu'on vient de lire et dans quelle mesure ça n'est pas le personnage lui-même qui a fait en sorte de nous raconter cette histoire de cette façon-là pour qu'on y croit. Donc, voilà, la dernière question que je voudrais poser sur vos ouvrages, c'est dans quelle mesure c'est vraiment sur ce pouvoir des histoires qu'on se raconte, et sur la façon dont on peut changer le réel par le regard qu'on porte sur elle. Donc c'est essentiellement c'est d'abord une question pour Fabrice Colin et que j'adapterai un peu.
Bah ça y est, je pars du fil.
Il n'y a pas de fil.
La preuve, alors, on ne voit pas. Le pouvoir des histoires. C'est une problématique super compliquée. Il faudrait faire une table ronde exprès dessus, en fait. Parce que c'est à quel point ce qu'on raconte est vrai. Enfin, c'est le pouvoir du roman. Alors, moi, j'ai pas mal de romans qui racontent des histoires, mais. Au sens propre et figuré, c'est-à-dire il y a le jeu du narrateur, je trouve qu'il exerce un pouvoir sur le lecteur finalement assez hypnotique. Il y a la confusion entre l'auteur et le narrateur, et puis il y a le narrateur me raconte une histoire, à quel point elle est vraie. Alors c'est assez compliqué parce que là on est dans un roman a priori fantastique. C'est marqué en gros sur la quatrième de couverture. Enfin, l'histoire qu'on va devoir raconter, oui, elle est fantastique. Donc, il y a ce qu'on appelle la suspension du pacte d'incrédulité. C'est-à-dire que le lecteur se dit, bon, bah d'accord, on est dans un monde où les gens peuvent voir les morts avec des lunettes spéciales, très bien. Bon, on lit l'histoire et à la fin, on s'aperçoit effectivement que c'est une sorte de mémoire d'entrée en université de littérature pour une jeune fille. Donc, on se dit, ah, ben ça se trouve, elle nous a raconté... des trucs faux, ou peut-être qu'elle s'est complètement arrangée avec cette réalité, peut-être qu'il y a des endroits qui sont faux, d'autres pas, donc on sait pas quoi. Et on peut faire ça avec n'importe quel type de littérature, y compris une littérature dite réaliste ou blanche. On peut tout à fait faire ce qu'on appelle maintenant de l'autofiction, c'est-à-dire se mettre en scène par exemple dans un roman et dire ben voilà, c'est moi l'auteur qui vous parle. En fait, dans quelle mesure c'est vraiment moi? Je vais vous donner des détails réels sur ma vie, mais en fait, vous n'allez pas forcément les vérifier. Ou peut-être que j'ai tronqué ma page Wikipédia. Enfin, genre, ça peut aller assez loin, le jeu sur la réalité. Et ça, je trouve que, encore une fois, c'est une des prérogatives de la littérature. Quand vous jouez avec ce genre de réalité au cinéma, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus basique, parce qu'en gros, soit vous montrez une image, soit vous la montrez pas. Si vous montrez les choses et que vous dites après au spectateur, bah non, en fait, c'était pas vrai, il y a une impression de triche qui est beaucoup plus grande. Ou alors, il faut arriver à faire comme dans Fight Club ou deux, trois autres films comme ça qui sont réussis, en disant, mais en fait, si vous voyez les choses... C'est juste c'est votre perception qui est pas forcément bonne ou bon. Moi j'adore jouer sur ces questions de mensonges, un peu de vertige presque métaphysique pour le lecteur, c'est-à-dire qu'à la fin du livre, il dit mais qu'est-ce que j'ai lu, enfin, est-ce qu'on me raconte la vérité, qu'est-ce que ça veut dire la vérité dans un contexte fantastique. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs leviers, plusieurs niveaux de réflexion et parfois, on peut, en jouant simplement sur ces ressorts-là, se passer de fantastique. J'ai fait une trilogie qui s'appelle La saga Van Belsen, qui raconte l'histoire d'une famille juive pendant tout le XXe siècle. Et en fait, là, la famille n'existe pas, mais moi, l'auteur, je fais tout pour que les gens pensent qu'elle existe, avec des documents, des faux témoignages, des choses, etc. Des remerciements où j'ai mélangé dans les remerciements des gens qui existent vraiment et d'autres qui n'existent pas. C'est vrai que c'est très confusionnant. C'est pas forcément... c'est des choses que les libraires ou les prescripteurs peuvent ne pas aimer ou ne pas comprendre. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée de perdre le lecteur. Je trouve qu'on a peu d'occasions dans la vie d'aujourd'hui d'être perdu, justement, de ne plus savoir où on est. Et finalement, de retrouver cet état d'enfance que j'évoquais tout à l'heure. On vous dit, il y a des dragons dans la forêt. Ah bon ? Ouais, peut-être. Enfin, bon, on ne sait pas. Et c'est dans ce « on ne sait pas » que peut se nicher la littérature qui, moi, m'intéresse.
Oui, est-ce qu'on peut croire ou pas croire, donc c'est vraiment une question de frontière entre le réalisme et la magie, au sens de, voilà, de la magie de l'imagination. Donc, en fait, on est dans le thème.
Non,
on est
le thème.
On est dans le thème. Patrick, les Baxter, les héritiers arrivent de périodes différentes, mais très typées, avec des souvenirs littéraires qui leur sont associés, bah, que ce soit Comtesse Báthory, qui a un lourd passé, à la fois en tant que personnage historique et en tant que personnage de fiction, et puis le petit homme qui est un orphelin victorien, qui évoque Dickens, et puis toute
cette fiction. Le Jack l'Éventreur, 10 ans après, il arrive 10 ans après les atrocités commises par
l'or qui est l'amour de Cartouche, donc voilà, qui amène
c'est
aussi un héritage du roman feuilleton.
Oui, c'est pour se faire plaisir encore une fois.
Mais c'est une façon pour vous de crédibiliser vos fictions en y apportant tout cet imaginaire.
De les ancrer cas, effectivement, dans une réalité, une trame historique réelle.
Oui, mais c'est des histoires en même temps.
Est-ce qu'on en est vraiment certain?
Voilà, d'accord. Donc vous êtes justement dans ce mélange de. Ouais, parce que voilà, Cartouche ou Jack l'Éventreur ou Comtesse Báthory, on est vraiment avec des personnages qui sont très à la limite de la. Enfin voilà, ou qui ont donné lieu à tellement de récits autour.
Totalement. Alors Comtesse Báthory en particulier. Et c'est une bonne ce roman, Comtesse Báthory, c'est une bonne illustration de ce que vous disiez précédemment, à savoir que à la fin de Comtesse Báthory, le lecteur peut se poser la question. Il peut choisir si la comtesse est complètement démente parce qu'elle a est prédisposée psychologiquement à sombrer. Ensuite, parce qu'elle a consommé beaucoup de substances psychotropes avec ses petits camarades. Donc, on peut croire qu'elle est complètement dingue, parce qu'elle est persuadée qu'elle est sur le point de devenir réellement immortelle par le biais de ce qu'on appelait, toujours la migration des âmes. Bon, voilà, libre à chacun d'y croire ou pas. Elle est persuadée qu'elle va donc s'évader de la prison où historiquement, de sa chambre où historiquement elle a été emmurée, vide. Dans le château de Castis, après avoir été condamné, est persuadé qu'elle va en partir, investir le corps d'une jeune servante, et qu'elle a été confrontée à Satan pendant tout le roman. C'est Satan, en fait, qui l'a à la fois sauvé, manipulé, etc. Et le lecteur peut choisir. C'est ou l'un ou l'autre. C'est vraiment c'est un roman fantastique, dans le plein sens du terme. Je n'oblige pas.
Hésitation.
Voilà, totalement.
On arrive au bout de notre temps de parole. Bon, Alice, vous aussi, vous inscrivez vraiment dans un genre très référencé et qui parle à notre besoin d'apporter une dose d'imaginaire et de concevoir la façon dont des créatures magiques pourraient interagir avec nous. Comment, vous qui connaissez apparemment très bien les codes du genre, vous avez fait pour vous y intégrer, vous le renouveler, ne pas vous sentir écrasé par le poids de vos prédécesseurs?
Oula.
Bah ça, je pense que je vais laisser mes lecteurs juger de à quel point j'ai réussi ce pari-là. La facilité que j'ai eue, c'est que effectivement une grande partie de la big hit, ou en tout cas la très connue, nous vient des États-Unis. Donc voilà, à partir du moment où on a des héroïnes qui vivent à Chicago, sont ancrées dans une culture qui est totalement américaine et qui ont des références qui n'appartiennent qu'à elles et auxquelles des lectrices américaines peuvent parfaitement s'identifier, auxquelles nous, on peut s'identifier parce que voilà, on a les séries télé, on n'est pas vraiment coupé de la culture américaine aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai la chance de pouvoir placer mon héroïne à Paris, de lui faire visiter Berlin, de lui faire avoir une culture qui est de ma génération, qui est plus européenne et qui a été marquée par d'autres choses. Voilà, ça c'est un exemple ridicule, mais dans l'urban fantasy, dans les romans américains d'une manière générale, j'ai constaté que le nec plus ultra du classe, c'est de boire une Heineken. La Heineken, c'est la bière la plus classe qu'on trouve aux États-Unis, apparemment, ou en tout cas dans les romans. Et du coup, c'est un truc qui est un peu ridicule pour nous lecteurs européens quand ils disent oui, très classe, ils débouchaient sa Heineken. Non, c'est la bière la plus ridicule. Et du coup, voilà, c'est sur ce genre de petites choses, c'est vraiment de la trame de fond, c'est vraiment sur le tissage de fond que je pense m'écarter de la voie habituelle parce que voilà, je vais avoir des références qui nous parlent plus à nous et qui parleraient moins à des lectrices aux États-Unis ou en Angleterre.
Donc voilà, une nouvelle héroïne pour l'imaginaire de nos jeunes, pas tant que ça,
nos lectrices.
Déjà jeunes adultes.
Absolument.
Ah, voilà. Je vous remercie beaucoup les auteurs. Si jamais vous avez envie de poser des questions, en général, je sollicite le public. Ça n'est pas toujours... voilà, vous êtes timide, ce que je peux comprendre, mais si vous avez envie de poser une question qui n'a pas été soulevée à un de nos trois auteurs, n'hésitez pas.
Allez-y, perdez-le, vous verrez, perdez le fil. Faites l'expérience, c'est bon.
Pas de questions? Bon, et bien merci encore aux auteurs, et merci à vous.